aujourd'hui aux ondes des Francos oubliés, Zacharie Georges Gagné. Ses pronoms sont « elle » et « il », avec les accords féminins. Zacharie Georges est une organisatrice, autrice, formatrice et artiste queer, trans et francophone. Bonjour Zacharie, ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Ça va bien, ça va bien. Tu sais, comme ça a été 2 semaines super occupées, comme tu sais, j'étais allée au Japon, puis j'ai revenu à comme, puis je me sens comme j'ai vécu un storm d'examens, puis de dissertations à remettre parce que j'ai rien fait pendant que j'étais au Japon, évidemment. Fait que maintenant, je peux finalement respirer un peu.
Génial, j'espère que tu as pu en profiter et que tu as un peu de repos devant toi.
For sure. Je pense que cette semaine, ça va être un peu plus chill. Puis, tu sais, la semaine prochaine, ça reprend un peu plus, mais il y a seulement un mois d'école qui reste. Fait que je garde mon espoir que ça va être OK. Ben, Zacharie Georges, on s'est rencontrés lors du forum ou la conférence de l'AFFC, c'est ça? Je pense.
Ouais.
OK. Ben, on s'est rencontrés, puis t'as témoigné à propos de tes vécus, à propos de l'harcèlement en ligne, puis des choses comme ça. Puis, tu sais, comme juste vivre tes identités plurielles, puis comment le monde autour de nous réagisse face à ça. Et c'est comme, c'était vraiment un coup de cœur, puis je t'ai approché après, puis je t'ai dit comment que moi aussi, j'ai eu des moments similaire dans mon parcours quand j'étais jeune. Puis depuis ce temps-là, je te suis sur les médias sociaux, notamment Instagram, puis je vois tout le travail incroyable que tu fais. Fait que je voulais t'inviter, puis c'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui.
Ah, ça me... Merci, c'est vraiment gentil de ta part. Puis moi aussi, j'avais eu un gros coup de cœur de notre rencontre à cette conférence-là. Puis ça m'avait marqué aussi de te rencontrer, puis de voir aussi le leadership au sein de la francophonie albertaine que tu prends. Fait que c'est vraiment un plaisir d'être là, puis de partager de l'espace avec toi cet après-midi.
Merci. Ben, dans ce cas-là, on va se lancer dans la première question tout de suite. C'est comme, quel est ton parcours avec le français? C'est la question classique des Francos oubliés, où est-ce qu'on demande tout le monde, parce que tout le monde vient de divers parcours, mais ce qui nous relie, c'est la langue française puis la culture francophone au Canada. Fait que, qu'est-ce que était ton parcours? Comment est-ce que la langue française contribue à ton identité? Puis, quelle place est-ce qu'elle occupe dans ta vie quotidienne?
C'est une question qui est tellement complexe, mais tellement simple en même temps. Mon cerveau veut aller dans 40 différentes directions pour y répondre. Mais je pense qu'à la base, bien, le français, c'est ma première langue. Donc, c'est la langue dans laquelle j'ai grandi. Puis, pendant longtemps, cette langue-là, ça ne voulait pas dire grand-chose pour moi, j'ai l'impression. Le français, c'était seulement le moyen que j'utilisais pour communiquer avec les gens autour de moi. Puis, j'ai toujours été quelqu'un qui a été très curieuse par rapport à l'anglais. Et donc, mon intérêt s'est vraiment tourné vers l'anglais pendant une bonne partie de mon adolescence. Puis donc, c'est parti de ça veut rien dire à ben, c'est une partie intégrante de ma carrière maintenant. J'ai déménagé il y a 3 ans en Ontario et mon but, c'était simplement d'apprendre l'anglais davantage et le pratiquer au quotidien. Et rapidement, mais la communauté franco-ontarienne m'a attrapé et m'a dit, tu ne nous quitteras pas. Et j'ai dit, d'accord, je ne vous quitterai pas avec plaisir. Et ça a vraiment pris une partie intégrante de ma vie, le français, et ça m'a mené à y réfléchir beaucoup, puis à réfléchir à sa valeur énormément. Puis bien sûr, ça l'a même mené à plusieurs conflits intérieurs. Puis je suis sûr qu'on va en parler davantage aujourd'hui, mais je suis aussi autochtone, je suis cri. Et donc, c'est ces conflits intérieurs entre la langue coloniale, une langue qui est fondamentalement religieuse et binaire et rigide sur plein d'éléments. Puis il y a plein de beauté là-dedans aussi, mais il y a beaucoup d'éléments qui créent des barrières dans ma vie. Puis, ben, ça m'a mené à me demander, ben, que je le veuille ou pas, je parle le français. Fait que maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Puis ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre cette valeur-là, puis à comprendre le fait que ben, je le parle. Il faut que je vive avec ça. C'est ma langue première, c'est celle que je maîtrise le mieux. Et donc, il faut que je fasse un travail autant intérieur qu'extérieur pour trouver un espace qui est confortable de vivre cette francophonie-là tout en vivant mes autres identités. Et ça, c'est constant. C'est un parcours continuel. Ouais, fait que c'est un peu là où j'en suis avec ma francophonie.
T'as dit que t'étais curieuse de l'anglais. Peux-tu en parler un peu davantage? Parce que je pense, fait que est-ce que t'as grandi seulement en français, que c'était la seule langue que tu connaissais, puis tu connaissais pas l'anglais, ou c'était quoi ta relation avec l'anglophonie un peu?
Mais j'ai grandi au Québec, donc j'ai grandi à la ville de Québec précisément, et c'est une ville très francophone, très peu anglophone, et ma famille avec laquelle j'ai grandi ne parlait aucunement l'anglais, zéro, nada, et rapidement en grandissant, ben, j'ai réalisé que malheureusement, dans ce monde capitaliste et très mondialisé, ben c'est dur de ne pas parler l'anglais et ça crée beaucoup de barrières à beaucoup d'informations qui pour moi étaient super importantes. Je pense notamment à mon identité queer, à mon identité trans. Il y avait tellement de contenu pendant mon adolescence sur ces identités-là qui étaient en anglais. Et très peu en français. Et donc, découvrir ma queerness puis ma transidentité en français, c'était presque impossible dans le contexte du Québec et de la ville de Québec particulièrement. Fait que ça m'a mené à me tourner vers l'anglais et à vouloir apprendre l'anglais, à vouloir avoir accès à des livres, à des vidéos en anglais, pour pouvoir me développer puis pouvoir trouver du vocabulaire qui me permet de m'exprimer comme je le souhaite. Puis encore à ce jour-là, mais le français, même s'il y a des avancements, ça crée encore beaucoup de barrières pour s'exprimer, ses identités queer. Je pense notamment à la binarité du langage francophone. Okay, c'est vraiment cet intérêt d'avoir accès à une variété d'informations puis de diversité d'opinions en anglais qui m'a poussé à avoir cet intérêt-là vers la langue anglaise.
Ça, je guette énormément. Puis tout ce que tu dis sur comme le fait que, tu sais, comme faire des recherches peut-être même, comme des recherches personnelles, ou même comme, tu sais, comme en ce moment, je fais des recherches sur le féminisme autochtone spécifiquement dans le cadre d'un cours. Puis tu sais, comme ce sujet-là, ça n'existe pas tant que ça en français parce que je pense que en tant que communauté, on essaie tellement de. On n'est pas cloisonné nécessairement, mais on essaie de se protéger la culture, la communauté, les coutumes, que des fois, on n'est pas aussi. On n'a pas autant d'ouverture vers les autres idées, ou on n'a pas nécessairement également vu qu'il n'y a pas toujours des opportunités d'avancement en français, que le monde se tourne vers l'anglais pour faire leurs recherches ou créer ou produire des connaissances. Fait que pour toi, ben, je voulais te remercier parce que tout le travail que tu fais en ce moment, comme tu as dit, ça se fait en français. Puis pour les personnes queer, les jeunes queer, tout ce que tu mets dans l'Internet ou même tout ce que tu dis, c'est comme ça nous rejoint beaucoup. Puis je voulais juste te remercier pour ça d'abord.
Merci, puis merci à toi aussi, Adina, dans tout ça. Je pense que tu fais une grande part, définitivement. Puis oui, même surtout du côté académique, je pense qu'il y a tellement de barrières à trouver des ressources en français et qui sont notamment intersectionnelles. On dirait que c'est un
Absolument.
concept qui est apparu il y a 5 ans en francophonie, comparément à des textes des années 90 qui parlent de l'intersectionnalité en anglais. Ça a pris du temps à arriver dans nos communautés. Puis je suis contente qu'on en parle maintenant, mais j'ai l'impression qu'on doit pédaler à une vitesse de 10 pour catch up un peu.
Ouais, non, absolument, mais parlons intersectionnalité un peu. Toi, tu as dit que tu es également une personne cri. Peux-tu nous dire un peu c'est quoi vivre ton autochtonie et comment tu la vis de façon peut-être quotidienne ou comment est-ce que tu la vis en général?
Oui, vraiment. Oui, je suis cri, ou comme une de mes aunties dit, cribécoise. J'aime beaucoup ce terme. J'ai un héritage qui est mixte. Fait que j'ai une partie de ma famille qui est de descendance cri, qui vit à Waspanipi, qui est une communauté cri sur le territoire Iou, au nord du Québec. Puis j'ai un héritage aussi franco-québécois. Puis comme j'ai dit plus tôt, j'ai vécu dans la ville de Québec, puis c'est là que j'ai grandi et que j'ai appris la culture francophone pendant une majorité de ma vie. Puis pendant longtemps, par rapport à mon identité autochtone, je pensais que j'avais un parcours qui était assez atypique jusqu'à temps que je commence à en parler. Puis plus j'en parle, puis plus il y a des individus qui me partagent des parcours tellement similaires. Pour faire une histoire vraiment courte, j'ai grandi au sein de ma famille qui est allochtone, donc non autochtone, et qui avait très peu de connaissances par rapport à la culture autochtone aussi. Puis pour des raisons familiales complexes, ben, j'ai pas eu de contact avec ma famille autochtone pendant les 10 premières années de ma vie. Puis pendant les 10 prochaines, ça a été des contacts on and off et assez tumultueux. Puis malgré tout ça, mais j'ai toujours su que j'étais cri. Puis en fait, plus tôt, on m'a appris que j'étais amérindienne pendant longtemps. Donc ça, c'était le terme qui était très communément utilisé. Puis cette identité-là, c'était pas toujours associé non plus à des bonnes raisons ou à des raisons positives. Fait que pendant longtemps, ben, mon éducation sur les peuples des Premières Nations, ça a été fait par des personnes blanches, donc des enseignants, des enseignantes blanches, ma famille qui ne se connaissait vraiment pas. Puis on m'a appris que j'étais amérindienne, comme j'ai dit. Puis souvent, ben, on me disait, fais attention à l'alcool puis aux drogues, parce que l'addiction, c'est dans ton sang, quote-unquote, indien. Fait que, autrement dit, là, mon identité autochtone, ça ressortait seulement dans des espaces ou dans des conversations négatives ou à la rencontre de nouvelles personnes. Où là, le côté d'identité raciale aussi ressortait. Quand j'étais à l'école ou dans mon entourage, ben, dès que je rencontrais quelqu'un, en fait, surtout par des adultes, quand j'y pense réellement, là, puis que je réfléchis à ces années-là, c'est surtout des adultes qui me disaient, lorsqu'on me rencontrait, waouh, ah, oh, t'es tellement bronzée! Ah, t'es donc bien chanceuse d'avoir un teint comme ça. Ah, ce que je serais pas pour avoir le même teint que toi, ou même le typique. Mais moi, je suis comme toi en janvier, mais en août. Magnifique phrase. Puis tellement on m'a dit ça que jusqu'à temps que j'avais peut-être 19-20 ans, je
Ouais.
croyais que je bronzais tellement pendant l'été que mon bronzage n'avait pas le temps de s'écouler avant que l'été revienne. Fait que je
My
pensais qu'en
goodness.
janvier, c'était ma banque de bronzage qui n'était pas encore vide. Puis que, en fait, c'est réellement juste mon teint naturel. Mais mon concept d'identité autochtone a pendant très longtemps été tellement shapé par un point de vue colonial, par un point de vue ancré dans la suprématie blanche, que ça l'a travaillé à séparer ma personne de mon identité. Fait que l'autochtonie, c'était pas qui j'étais, c'était les raisons derrière des éléments négatifs de ma vie. Ça a été pendant longtemps, mais heureusement, là, je suis à un endroit assez différent. J'ai des contacts plus grands avec ma famille autochtone où je peux apprendre sur la culture de mes pères, la culture de mes ancêtres. Puis c'est comme je parlais plus tôt par rapport à la francophonie, mais ça aussi, ce parcours de réconciliation intérieure, c'est ongoing. Ça prend comme autant de unlearning que de l'apprentissage. Puis de rattacher cette identité autochtone à qui je suis, puis pas seulement à des éléments contextuels de ma vie.
Oh, c'est comme évidemment, mes circonstances ne sont pas nécessairement. Je suis pas autochtone, puis je peux pas, obviously, comme me relate avec toutes, mais des choses comme ce que tu dis avec comme le colorism, je sais pas comment le dire en français, mais c'est comme en Inde, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment ressenti, comme l'idée de la suprématie blanche est tellement ancrée dans nos façons de penser que. C'est comme l'été même, je me vois beaucoup de fois où je vais me mettre dans une chemise avec des long sleeves, des pantalons, même s'il fait 30 degrés dehors, parce que je ne veux pas me bronzer, parce que là, je me sens comme, ah, oh, je suis trop, trop foncé.
Ouais.
Puis c'est tellement quelque chose qui est ancré dans nos têtes. Non, fait que je te guette quand tu dis que comme tu associais des fois ton identité autochtone avec des choses négatives. Parce que moi, si mon identité racisée, mon identité culturelle, je l'identifiais avec comme avec de la nourriture qui était, c'est comme qui puait, according de mes pères. Puis, c'est comme des choses comme ça, ça fait en sorte que tu intériorises tellement ces choses négatives que tu commences à avoir de la haine pour toi-même, des fois. Fait que, est-ce que tu as déjà ressenti un sentiment où tu niais ton identité autochtone, puis tu mettais de l'avant ta francophonie, peut-être, ou peut-être même d'autres identités? Pour un peu cacher cette identité autochtone ou ton autochtonie.
Ouais. Merci vraiment pour ton partage. Vraiment, j'apprécie que tu t'aies parlé de ça. Puis c'est drôle parce que j'en parlais ce week-end avec un ami et on parlait de cet ami-là fait partie de la diaspora d'un pays que je ne veux pas nommer pour pas outer cette personne-là et ses expériences, mais
Absolument, oui.
on parlait de la connexion entre l'expérience autochtone sur nos terres, l'île de la Tortue, et qui sont très similaires aux expériences des personnes issues de la diaspora. Et ça fait beaucoup réfléchir de penser que je ne suis pas sur des terres inconnues, mais que ces expériences sont très similaires à celles qui ont voyagé, qui sont rendus dans des espaces différents. Mais pour ta question sur si y a des moments où j'ai voulu cacher mon autochtonie, puis ou cacher d'autres identités pour mettre de l'avant la francophonie, la réponse courte, c'est que oui, définitivement. Puis comme on parlait en termes d'intersectionnalité, c'est pas juste au niveau de la recherche ou au niveau des documentations, des ressources en français que ça se présente, c'est aussi au sein de nos communautés que ce manque d'intersectionnalité-là se présente. Et ça nous mène, oui, à vouloir se simplifier, puis à vouloir mettre, ou à se sentir comme si on est obligé de mettre seulement un élément de l'avant dans des espaces. Quand je pense à mon identité queer, puis à la communauté queer francophone, on a entendu souvent l'expression ou le saying de soit t'es francophone, soit t'es queer. Il faut que tu fasses un choix entre les deux parce que vivre les deux, c'est pas possible. Et ça, c'est un statement qui est très triste, qui en dit grand sur l'état de l'inclusion dans nos communautés. Puis personnellement, je l'ai ressenti où j'ai senti que je ne pouvais pas exprimer toutes les nuances de mes expériences, de ma personne, parce qu'il n'y avait pas les connaissances nécessaires dans les espaces que je me retrouvais. Puis quand je parle d'espace aussi, je veux noter que la plupart de ces expériences-là se dénotent dans des espaces de plaidoyer. Donc, des espaces où on parle des droits linguistiques, où on parle de défense des droits des personnes francophones. Puis ces espaces-là manquent agressivement d'intersectionnalité. Puis il y a des éléments politiques là, qui expliquent ça. Je pense pas que c'est au niveau individuel du tout. Ça, il faut faire la séparation aussi, parce que les francophones sont bien capables de cette intersectionnalité-là. Mais au niveau du collectif, on est poussé à devoir forger un discours politique en espérant que le gouvernement nous donne un peu plus que le minimum en termes de droits linguistiques. Et donc, ça nous mène à oublier nos nuances complètement, à les jeter par-dessus le bateau, puis à simplifier nos messages, nos expériences pour que le gouvernement comprenne rapidement, simplement, et qu'on puisse avoir accès à du financement qui nous permette d'avoir nos droits respectés. Et ça, c'est très similaire autant au sein des communautés autochtones qu'au sein des communautés queer, de LGBTQI+. Et c'est dangereux parce que ces espaces de plaidoyer-là qui interagissent avec les grandes institutions de pouvoir dans notre pays, ben ça amène, ces espaces de plaidoyer-là reflètent nos priorités communautaires ensuite. C'est pas juste bottom to top, c'est très top to bottom. Ça découle aussi dans nos communautés, dans nos discours interpersonnels aussi. Donc, tout ça pour dire que oui, ça nous mène à comme prioriser nos identités, puis à hiérarchiser le tout. Puis bon, aujourd'hui, est-ce que je sens que j'ai l'effort d'apporter cette nuance-là, puis de répondre aux grandes questions, ou est-ce que je veux me simplifier pour m'assurer qu'on me comprend?
Ça, c'est une super bonne question. J'en ai pas pensé, tu sais, comme, mais je t'entends quand tu dis que quand on fait des approches peut-être à l'envers, les décisions que les communautés prennent ou les autorités prennent vont souvent toucher nos communautés à la marge de la francophonie plus que ceux et celles qui sont au centre. Puis c'est tellement quelque chose qu'on doit prendre en compte quand qu'il y a nos. J'aime dire les adultes dans nos communautés prennent des décisions parce que c'est toujours, tu sais, comme les jeunes continuent d'être pas toujours
Ouais.
représentés dans ces cercles-là. Là. Fait que tout ce qu'on peut faire pour le moment, c'est de communiquer ça aux adultes de nos communautés francophones puis leur dire, écoute, quand on fait des décisions politiques, sociales, whatever que c'est, il faut prendre en compte ceux qui sont aux marges de notre communauté qui se font souvent vus écarté, vu comme il compte pas tant que ça. Fait que, non, absolument. Je t'entends quand tu dis ça.
Oui, puis surtout avec les droits linguistiques, ça, c'est quelque chose que je comprends pas. C'est une grande critique du mouvement des droits linguistiques francophones, c'est son une exclusion presque complète des droits linguistiques autochtones. Faut pas oublier que le français, c'est une langue qui est coloniale,
Yes.
qui est colonne et qui est arrivée ici pour aussi, qui a eu un grand impact sur l'assimilation puis le génocide des différents peuples autochtones. Puis, si on travaillait à créer des relations réelles et qui vont nous mener à du réel changement avec les peuples autochtones qui travaillent constamment sur les droits linguistiques aussi et qui travaillent depuis longtemps sur cette question-là aussi, je pense qu'on pourrait avancer beaucoup plus rapidement, puis ça ne nous mènerait pas à devoir piler sur un autre langage ou sur d'autres centaines de langages pour faire avancer une autre langue coloniale. Je pense que ça, c'est une grande critique du mouvement des droits linguistiques francophones. Même puis je sens qu'il y a une envie, une volonté, puis on en parle parfois, mais quand on regarde les réelles relations entre les mouvements de droits linguistiques francophones et autochtones, les liens sont très débalancé, définitivement. Puis si je suis une personne francophone et que je suis une personne autochtone, ça prouve que c'est pas une question de droit autochtone et de droit francophone. Ces deux droits-là, c'est mes droits à moi, fait qu'on peut pas les séparer comme ça.
Absolument. Non, c'est tellement real ce que tu dis. Puis aussi, comme il faut commencer avec adresser nos propres rôles en tant que francophones dans le colonialisme je dis de l'Ouest canadien, mais également de l'Est canadien. Parce que ici, tu sais, comme on sait que le campus Saint-Jean, dans mon instance, c'était un séminaire religieux qui formait des religieux qui allaient enseigner dans des écoles francophones de l'Ouest. Mais c'est comme il y a une zone grise, puis peut-être que je devrais m'adresser à des historiens puis des historiennes, mais je me demande si certains de ces religieux puis religieuses sont continués à travailler dans des pensionnats autochtones. Puis ça, c'est une histoire tellement grise, puis on ne sait pas tant que ça, mais avant on doit adresser ça et à la fois, on peut appuyer les droits linguistiques des communautés autochtones. C'est comme tu as dit, on n'a pas besoin de piler sur d'autres langues pour mettre en valeur notre propre langue. Comme moi aussi, j'ai d'autres langues. J'ai ma langue maternelle, puis j'ai pas besoin de piler dessus pour mettre en valeur la langue française. Je peux vivre les deux en même temps. Puis, c'est ce qu'on voit avec, c'est comme la francophonie, c'est que les communautés autochtones, les nations autochtones font beaucoup de bon travail dans la revitalisation de la langue, de leur langue. C'est sûr qu'eux, ils vivent beaucoup de sous-financement, puis même une absence de financement, point. Mais il y a beaucoup de, tu sais, comme de pratiques, des bonnes pratiques en matière de langue, de politique langagière qu'on peut apprendre, nous, en tant que francophones. Puis aussi, nous, on peut, tu sais, comme on a un privilège en tant que langue coloniale à pouvoir partager. Donc, les deux peuvent se faire main en main. Puis c'est comme ça qu'on fait la réconciliation en action. Ça se finit pas avec des paroles.
Vraiment.
Mais, yeah, ça, c'est juste quelques pensées que moi, j'ai déjà eues là-dessus. Puis non, je te Yeah, I just lost my train of thought, but yeah.
J'entends aussi vraiment.
On continue de parler de l'intersectionnalité. Que signifie-t-il? de s'identifier à la fois comme francophone et autochtone? Puis comment est-ce que tu trouves que tes identités convergent?
Oui, c'est surtout c'est compliqué. Je te dirais qu'en étant au Québec avant et que ma communauté autochtone soit au Québec aussi, comme il y avait moins de questionnements où j'y réfléchissais moins à ces différences-là, mais de me rendre dans un milieu francophone minoritaire m'a fait beaucoup repenser à comment ces deux identités peuvent cohabiter ensemble. Puis comme j'ai dit, bien souvent, dans ma vie professionnelle, c'est dans les espaces de plaidoyer francophone que ces complexités-là sont comme enhanced, sont soulignées, sont plus visibles. Puis je pense notamment, si je pense du côté autochtone, en Ontario principalement, je n'ai pas entendu ce discours-là au Québec complètement, ben un peu, mais en Ontario, je l'ai entendu quelques fois. Au sein de nos communautés autochtones, il y a une croyance que les autochtones francophones sont beaucoup plus colonisés que celles qui parlent l'anglais. Il y a comme cette croyance-là que les autochtones francophones sont plus colonisés que ceux qui parlent anglais. Fait que déjà là, il y a une perception négative du français. Puis il y a des questions vraiment historiques et contextuelles qui peuvent expliquer ces croyances-là au sein de nos communautés. Mais je ne suis pas la plus connaisseuse dans ces raisons-là. Mais c'est des témoignages, puis c'est des croyances que j'ai entendues depuis mon arrivée en Ontario. Puis ensuite, du côté des communautés francophones, ben, il y a aussi un grand manque de connexion aux réalités autochtones. Puis comme je disais, depuis quelques années, il y a une plus grande volonté de faire ce travail de réconciliation et de vérité, mais les partenariats, puis les liens, les relations sont très débutantes ou très absentes, même parfois. Fait que ça mène à beaucoup de tokenisation ou d'instrumentalisation au sein de ces partenariats-là. Puis tantôt, tu parlais justement d'apprendre des peuples autochtones, des personnes métis, des personnes inuites, etc. Et les peuples autochtones sont très accueillants en général. Puis là, je ne veux pas faire la généralisation parce qu'il y a des peuples autochtones qui ont des. Qui ont leur réserve pour travailler avec des personnes allochtones de
Avec
par
bonne
les
raison,
besoins.
bien sûr.
Exactement. Mais quand les relations sont là, les efforts sont faits, les peuples autochtones sont accueillants, les peuples autochtones veulent faire rayonner leur culture aussi. Fait que si ces liens-là étaient fortifiés et qui sont réels, il y a des grandes opportunités, je pense, de partenariat à ce moment-là. Puis la plus grande difficulté que moi j'ai rencontrée, comme on parlait, c'est la hiérarchisation des identités que ça mène à faire. Donc aujourd'hui, est-ce que je mets de l'avant mon autochtonie? Est-ce que je mets de l'avant ma queerness? Est-ce que je mets de l'avant mon transness? Puis parfois, c'est pas un choix que j'ai, c'est un choix qui m'est imposé aussi. Parce que ça arrive souvent que là, le sujet du LGBTQI+ est mis de l'avant et là, il y a un grand silence. Et il y a deux, trois personnes queer dans la salle. Et si on ne parle pas, ben, il n'y a pas de représentation non plus dans ces salles-là. Et donc, c'est un peu, c'est indirectement imposé. Puis ensuite, ben là, je me fais interviewer 40 000 fois sur ma francophonie du LGBTQI+. Et là, je ne parle pas du podcast aujourd'hui. Ce n'est pas le but du tout. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes non plus
Oui.
qui en parlent. Et donc, je comprends que c'est une question de nombre aussi. Mais ça amène à un épuisement, puis ça amène à comme quand est-ce que je vais pouvoir juste être dans un espace et pas à faire de l'éducation et juste être dans l'espace et que mes expériences et mon vécu vont pouvoir être pris en toute entièreté.
C'est comme nos identités sont holistiques, puis on ne doit pas les voir comme dans des silos. Puis c'est comme les personnes qui vivent des identités plurielles. On essaie, c'est comme on est constamment on est dans un monde qui veut voir nos identités comme des choses séparées. Puis c'est comme le travail des personnes autochtones, des femmes autochtones, puis des femmes noires qui ont proposé comme l'intersectionnalité. On est constamment en train de battre cette vision que our identities have to be separate, puis c'est pas pantoute le cas. C'est comme tu as mentionné également, tout ce qui c'est comme les Autochtones francophones sont vus comme un peu plus colonisés, puis J'ai lu récemment un texte, puis je pense que c'est par une auteure qui s'appelle Cheryl Lightfoot. C'est une femme autochtone, puis elle parle de la dichotomie co-opted versus authentic Indigenous people. Des personnes qui sont vues comme qu'ils sont colonisés ou beaucoup trop colonisés parce qu'ils font partie de la grande société canadienne. Ou les gens qui sont vus comme plus authentiques parce qu'ils retiennent et ils ont leurs réserves. Fait que, tu sais, comme cette dichotomie ou même cette binarité-là, c'est, in and of itself, c'est colonial. Puis ça, c'est tellement une critique de cette vision de l'autochtonie. C'est un super bon segue dans ma prochaine question sur moi et mes amis, beaucoup de mes amis racisés, on a déjà fait face à un genre de othering de nos communautés racisées ou de nos communautés culturelles lorsqu'on affirme nos identités francophones. Fait que je me demande si toi, tu as déjà fait face à des questionnements sur ta loyauté à l'autochtonie ou même ton identité autochtone en tant que telle en raison de ton appartenance à la francophonie québécoise ou la francophonie canadienne.
Quotidiennement vraiment, puis je dirais que c'est surtout et malheureusement des dilemmes internes. C'est très rarement des personnes qui verbalement me mettent en question, mais c'est moi qui me mets en question de par ma socialisation, de par les discours politiques, les discours publics qu'il y a sur la scène. Je pense par exemple là, à la différence entre les personnes autochtones qui ont leur statut et celles qui ne l'ont pas. Et ça, même au sein de nos communautés, ben, c'est une grande discussion. Puis je comprends pourquoi ces discussions-là ont lieu parce que le statut en ce moment, c'est comme la façon institutionnalisée d'avoir accès à des droits particuliers ou des droits un peu j'ai oublié le mot, mais il y a un mot en anglais qui ne vient pas en tête, là, mais de nous repayer nos expériences négatives. Donc, il y a plein d'éléments légaux qui sont reliés au statut d'Autochtone, ben, indien, là, c'est le vrai terme légal, de statut indien ou non. Et donc, au sein de nos communautés, mais ça nous mène aussi à avoir des débats internes pour savoir qui a le droit, entre guillemets, de s'auto-identifier comme autochtone, alors que, comme tu disais, cette question-là, c'est un résultat du colonialisme. Puis, si moi, en tant que personne qui n'a pas un statut indien, si je me tais sur mon parcours, sur mes expériences, sur mes racines, la seule personne que ça bénéficie, ou le seul concept que ça bénéficie, c'est le colonialisme. Ça ne bénéficie pas moi en tant qu'individu, ça ne bénéficie pas ma famille, ça ne bénéficie pas mon entourage, ça ne bénéficie que le colonialisme, puis le système capitaliste de suprématie blanche. Fait que oui, à chaque jour, je me questionne sur je travaille à déconstruire les syndromes de l'imposteur. Aux différents discours qui sont très publicisés sur qui est autochtone ou pas. La chasse aussi, comme en anglais le terme le pretendian, est comme un immense sujet au sein de nos communautés. Et c'est comme on est devenu parfois un agent du colonialisme. Comme j'ai dit, il y a des raisons pour ça. Puis je peux pas jeter le blâme sur les personnes autochtones qui font cette chasse-là parce qu'il y a des raisons économiques, des raisons historiques, légales, qui nous poussent à faire ça, mais c'est un résultat concret du système colonialiste. Puis ça prouve encore à quel point c'est ancré dans les croyances sociales et comme communes.
Oh, c'est frustrant. C'est comme avec la colonized mentality, as it's said in English. C'est comme tout ce qui est des pensées puis des croyances sociales, mais aussi individuelles qui sont tellement ancrées dans la façon qu'on pense. On est tellement conditionné en tant que personne racisée, autochtone, en tant que personne noire, mais aussi en tant que personne queer, des fois, à penser d'une certaine manière qui veut nous écarter, nous marginaliser, puis on fait ça nous-mêmes des fois. Puis évidemment, c'est pas notre faute, mais ça prend beaucoup de travail pour comme overcome ça, puis c'est beaucoup de travail, fait que ouais. C'est épuisant.
Vraiment.
Fait que, en ce moment, c'est le mois de la francophonie canadienne. C'est un mois où beaucoup d'entre nous, on vit avec fierté notre francophonie, on s'affiche dans les couleurs de la francophonie, provinciale ou territoriale. C'est comme c'est un moment peut-être difficile pour certaines personnes qui s'identifient pas tant que ça avec la francophonie ou ont eu des obstacles à surmonter avant de pouvoir s'intégrer dans la communauté. Fait que toi, ayant vécu toutes les expériences que tu as vécues en tant que personne qui est maintenant franco-ontarienne, avec tes transidentités, puis tout, as-tu un message pour la francophonie canadienne en ce mois de la francophonie?
Oui, en fait, je pense que ça découle de toute notre conversation. Puis il y a un élément que depuis comme un mois, je pense obsessivement à cette question-là. Puis je pense que ça se rattache bien à tout le sujet, les sujets qu'on a adressés aujourd'hui. Et je suis comme dans une petite crise philosophique entre notre capacité en tant que communauté francophone à trouver une balance entre notre collectivité puis aussi permettre l'individualité au sein de cette francophonie-là. Puis je suis en plein milieu de ce breakdown philosophique, mais il y a quand même des éléments qui semblent comme être clés pour trouver cette balance-là. Puis c'est important pour moi de les mettre de l'avant aujourd'hui avec toi. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui résonne avec toi aussi là-dedans. Puis un élément particulier auquel je pense, c'est la dignité. Puis la dignité, c'est de croire et d'implémenter cette croyance que toute personne mérite de se sentir complète, respectée, mais aussi qu'elle ait l'espace pour s'autodéterminer. Et ça, c'est sans exception. Puis, pour pouvoir s'autodéterminer, il faut qu'on offre la croyance que chaque personne est aussi la mieux placée pour parler de soi, pour identifier ses besoins et ses réalités-là. En ce moment, personnellement, dans la collectivité francophone, je ne me sens pas toujours comme si on m'offrait cette croyance-là. Je ne crois pas que les environnements francophones m'offrent constamment cette dignité. Puis comme on a dit plus tôt, là, je veux vraiment faire une nuance entre, je parle pas au niveau individuel ici. Je crois vraiment fortement que tous les francophones, ils sont capables, puis ils veulent offrir cette dignité-là aux gens. Puis je la ressens dans mes échanges, un à un, une à une avec d'autres personnes. Puis je parle vraiment particulièrement au niveau de la collectivité, au niveau des conversations communautaires, au niveau de nos efforts collectifs pour revitaliser, pour faire avancer les droits linguistiques, puis pour faire changer le système dans lequel on vit. Puis comme on a parlé à plein d'instances aujourd'hui, il y a plein d'éléments qui expliquent pourquoi la dignité n'est peut-être pas offerte à tous dans nos communautés. Les francophones, ils se battent pour leurs droits linguistiques. Puis je pense notamment au milieu de la santé. C'est une question qui me baffle, comme on dit en anglais. Comme c'est incroyable que la question d'accès aux soins de la santé, c'est une question qui est politique. Mais ce l'est. Puis parce que c'est politique, bien, on doit forger des plaidoyers, comme je disais plus tôt, que le gouvernement il comprenne rapidement, puis qu'au minimum, bien, il nous donne un petit peu d'argent ou un petit peu de droits pour qu'on réalise le minimum pour que nos communautés survivent. Puis ça nous oblige à se débarrasser des nuances. Puis si on s'entend tous et chacune et qu'on croit fondamentalement au droit à la dignité au sein de la francophonie, on ne peut pas se permettre d'effacer ces nuances-là. On ne peut pas se permettre de les oublier derrière. Et ça, je pense que si on se centre, on s'ancre dans cette croyance à la dignité pour tous et chacune et chacun, je pense qu'on va pouvoir s'en aller vers une bonne direction.
Wow. Ça c'est tellement comme une valeur que moi je n'ai. C'est sûr que j'essaie de donner la dignité ou traiter avec tout le monde avec la dignité quand que j'ai mes interactions propres. Mais tu sais, comme quand je pense à la francophonie, c'est où ma vision de la francophonie n'a jamais, tu sais, comme j'ai jamais articulé ça de même. Mais ça c'est tellement important dans le sens que chacun et chacune a ses propres façons de se voir, de se comporter Oui, on se retrouve en tant que collectivité, en tant que communauté francophone, mais you're so right quand tu dis que chacun et chacune se connaît plus que l'autrui le connaît. Puis on doit donner le respect et l'espace pour ces individus pour communiquer leurs besoins, pour communiquer leurs enjeux dans leur communauté. Fait que, I can't put it as well as you did. Fait que, là, je vais juste laisser ça de même parce que je pense que tu as vraiment, you hit all the points on the head. Fait que, c'est ça aussi ma vision pour la francophonie canadienne où tout le monde est vu avec une dignité. Chaque expérience n'est pas rejetée parce qu'il nie une vision ou une image de la francophonie qu'on veut conserver. La francophonie est en pleine évolution. Puis chacun et chacune amène leurs expériences et on doit laisser ces personnes vivre leurs expériences puis amener ces expériences à la table pour qu'on puisse avoir une francophonie très épanouie. Puis c'est ça
Vraiment.
qui nous rend fortes comme communauté.
Tu l'as merveilleusement résumé.
Merci, Zachary-Georges. Je suis vraiment comme. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me jaser aujourd'hui. Je voulais, c'est comme c'est le mois de la francophonie, on entend beaucoup sur c'est quoi être francophone, mais je pense que je voudrais également entendre beaucoup sur c'est quoi être autochtone francophone, c'est quoi être racisé et francophone. Je pense que ces histoires-là méritent d'être entendues en ce mois de la francophonie. Puis c'est aussi fun parce que je me considère un peu des fois un peu provocateur qui veut provoquer des choses. C'est comme pourquoi pas changer la narrative de la francophonie en ce moment, dans ce mois de la francophonie, puis jaser avec du monde qui font du travail important puis absolument incroyable pour ceux et celles qui sont à la marge de la communauté francophone, puis essayer de leur ramener au centre.
Vraiment. Mais merci à toi de créer cette plateforme-là, puis de nous permettre de provoquer, comme tu dis, j'aime bien l'idée.
Absolument. Mais avec ça, je te laisse. Merci beaucoup encore une fois. Puis à nos auditeurs, j'espère que vous allez aimer tout ce que Zachary Georges avait à dire sur la dignité, sur l'intersectionnalité, puis l'inclusivité de notre communauté francophone. Puis que ces choses-là ne sont pas nécessairement vues comme des critiques de cette communauté, mais plutôt des choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Avec lequel on peut bâtir une communauté qui est plus inclusive pour tout le monde, qui est réflective de cette belle diversité qu'on a déjà, s'il faut juste donner du empowerment à cette diversité pour qu'elle puisse affirmer l'identité francophone également. So, ben, avec ça, à bientôt.
Bientôt!
Aux auditeurs et auditrices des Francos oubliés, j'espère vraiment que vous avez aimé cet épisode des Francos oubliés avec Zachary-Georges Gagné. Je vous encourage d'aller checker ses profils Instagram, Twitter, LinkedIn, n'importe où. Elle fait tellement beaucoup de travail incroyable dans la communauté francophone, franco-queer. Puis, c'est juste une personne qui m'inspire beaucoup. Fait qu'allez checker ça, puis à part de ça, mettez un like, laissez des commentaires, envoyez-moi des courriels, puis à la prochaine!